Le rubis dans le sang par Victor Forbin. Jusqu'aux événements que je vais conter, la biographie de Jean le Duc aurait pu s'exposer en quelques lignes. Là devait j'étais en France à peindre les tableaux d'une vente incertaine, bien qu'il fût doué d'un réel talent. Déçu dans ses affections par le refus catégorique qu'il avait essuyé en demandant la main de la jeune fille qu'il aimait, et dont le père lui fermait la porte au nez en le traitant de rapin. Il était parti chercher fortune en Indochine, après un échange de lettres avec un entrepreneur de Saïgon qu'il engageait comme peintre décorateur. Son contrat de 2 ans terminé, il décidait de rester dans le pays et d'y travailler à son compte. 30 ans, c'est encore l'âge des illusions, et Jean le Duc ne faisait pas exception à la règle. Et les ciels lui soufflaient cet espoir, acquérir la notoriété, peut-être aussi la fortune, comme peintre exotique. Et il allait de ville en ville, brossant ici des enseignes, exécutant des travaux de décoration, gagnant partout largement sa vie, mais en se réservant chaque jour quelques heures de loisirs qu'il employait à peindre pour lui ou à croquer des scènes de la rue. Et il parcourait ainsi la Cochinchine, le Cambodge et l'Annam en compagnie de son inséparable Chong, un ami intelligent et dévoué, qui cumulait à son service les fonctions de guide, d'interprète et de cuisinier. L'intérêt de ce récit ne commence guère qu'à Kompong Thom, petite ville cambodgienne où Jean le Duc est venu décorer le fumoir et le salon d'un riche planteur. Fidèle aux habitudes prises, et tandis que Chong prépare pour le dîner de ses gros poissons à la chair exquise, que fournit en abondance le thon, les sapes, le grand lac voisin, le peintre s'est installé en pleine rue pour jeter sur la toile les fugitifs éclats du coucher du soleil. Attentif et silencieux, les indigènes suivent curieusement les rapides mouvements du pinceau, mais un homme a pénétré dans le cercle, et la joie de ses traits devant celle qui fait trembler sa voix. « Monsieur le Duc, vous ne me reconnaissez pas ?» Posée en un français presque impeccable, la question a surpris le peintre, qui dévisage le nouveau venu en faisant appel à ses souvenirs. Et l'annamite vient à son secours en souriant. « Sang, monsieur le Duc. »« Sang, ah bien, si je m'attendais. » Il s'est dressé en lâchant son pinceau pour étreindre la main de Sang. « Mon cher ami, j'ai souvent pensé à toi. Mais du diable si j'y pensais en ce moment. Quel bon vent t'amène dans cette petite ville ?»« C'est la mienne, monsieur le Duc. Et je suis bien heureux de vous rencontrer à Kompong Thom. Quand ma famille va savoir que le Français qui m'a sauvé la vie... »« Pas d'exagération, mon vieux Sang, » interrompt le peintre. « De nous deux, s'il en est un qui a sauvé la peau de l'autre, c'est bien toi. Et je ne te permets pas de discuter là-dessus. » Puis, ayant achevé de ranger dans la boîte sa toile et sa palette, il prit l'anamite par le bras. « Assez travaillé pour aujourd'hui, je t'emmène. Tu vas goûter à la cuisine de Chong. Excusez-moi, monsieur le Duc, ma famille, tu es donc marié? Hélas, non, celle que j'aime ne veut pas de toi. Nous sommes logés à peu près à la même enseigne, mon vieux Sang. Raison de plus pour ne pas nous lâcher ce soir, bien. » Le cinéaste a cet avantage sur le conteur qu'il peut intercaler, ça et là, dans son film, des parenthèses tissées d'images évocatrices, alors que l'écrivain doit souvent donner aux siennes la sécheresse d'un rapide exposé. Les souvenirs communs aux deux amis remontaient à 3 ans. Sergent dans la milice annamite, réformé pour cause d'accident la veille de terminer son engagement en France, Sang regagnait son pays sur le même paquebot qui emportait le duc et ses rêves de fortune. Un passager hollandais, qui professait une haine violente envers les jaunes, lui cherche querelle. Bien que son insulteur le dépasse de toute la tête et qu'il soit 2 fois gros comme lui, Sang, nature fière, le toise avec dédain. Le bravage tombe sur le petit homme. Va-t-il l'assommer? Impétueusement, le duc se lance dans la mêlée. Il n'a jamais parlé à ce sergent indigène. Dans la foule des passagers de 3e classe, il l'a complètement ignoré jusqu'en 7 minutes. Il ne voit là qu'un faible assailli sauvagement par un fort, et d'un coup de poing, il envoie le Hollandais rouler sur le pont. Le soir même du débarquement à Saïgon, l'ex-sergent trouve l'occasion de s'acquitter de sa dette de reconnaissance. Lié d'amitié depuis la correction infligée au Matamor, le duc et lui se sont aventurés à la nuit tombante dans le labyrinthe des rues de Cholon, le faubourg chinois de la capitale. Une femme passe en poussant des cris d'épouvante, suivie de près par 3 ou 4 Chinois qui brandissent des couteaux. Malgré les supplications de Sang, qui connaît les mœurs de ce faubourg et sait combien il est dangereux d'intervenir dans ces histoires entre Chinois et Chinoises, le duc se précipite au secours de la fugitive. Mais d'autres malandrins sortent des ruelles, et il va succomber sous le nombre quand l'arrivée de Sang et les coups de bâton qu'il distribue dégagent Jean-Luc, qui, terrassé, allait payer de sa vie cette nouvelle manifestation de son esprit chevaleresque. Et les deux amis se séparaient le lendemain, Sang pour s'acheminer vers sa petite ville natale, le duc pour commencer son travail chez l'entrepreneur de Saïgon. Les confidences auxquelles l'ex-sergent s'abandonna durant leur pas auraient manqué de clarté sans le préambule ethnographique que Jean-le-Duc écouta avec un vif intérêt. Les Annamites sont, relativement, de nouveaux venus dans le pays qui porte leur nom. Originaires du Yunnan, ils commencèrent la conquête de l'Annam vers le 8e siècle en refoulant les Cham, qui avaient fondé dans cette partie de l'Indochine un royaume prospère et une civilisation brillante. Après une résistance désespérée qui se prolongea pendant 200 ans, les Cham furent vaincus, massacrés ou dispersés. Ils ne sont plus représentés que par une dizaine de petites tribus éparpillées dans le sud de l'Annam, en Cochinchine et au Cambodge, et les Européens les confondent trop souvent avec les Annamites, bien que les deux races soient très différentes par leur aspect physique, comme par leur langue et leurs mœurs. Sang appartenait à l'une des familles Cham fixées à Kompong Tom depuis de nombreuses générations, et lorsque, abordant enfin le doux secret, il lui précisait que la jeune fille qu'il aimait était de sa race, Jean-le-Duc s'étonna. « Et qui t'empêche alors de l'épouser ?»« Tu ne peux pas savoir. Des obstacles insurmontables. Mais je demande à les connaître. Et qui sait si à nous deux, nous n'en triompherons pas ?»« Quand je t'aurai tout dit, tu comprendras mon désespoir et tu le partageras. Ou peut-être hausseras-tu les épaules en traitant mon récit d'invraisemblance. Un conte de fées, presque. » Ma, de 10 ans plus jeune que lui, descendait en ligne directe des rois Cham. Élevée dans un pensionnat français à Hué, la capitale de l'Annam, elle y avait acquis, outre une brillante éducation, des rêves de grandeur. Affranchie de l'apathie fataliste de sa race de vaincus, elle souffrait de ne pouvoir tenir son rang de princesse royale, en l'état de pauvreté où sa famille se trouvait réduite. Depuis 2 ans qu'elle avait quitté le pensionnat, pour revenir à Kompong Tom, son imagination exaltée se nourrissait d'une chimère. Récupérer le trésor de ses royaux ancêtres, et surtout le fameux rubis connu dans les traditions des Cham sous le nom de l'œil de Bouddha. Et elle a juré, conclut tristement Sang, qu'elle n'accordera sa main qu'à celui qui retrouvera ce rubis. Autant dire que je n'ai plus le droit d'espérer. Oh, les serments de femme, sourit le duc. Mais cette histoire si orientale de l'œil de Bouddha l'intéressait. Il demanda. Naturellement, tu ne crois pas à l'existence de ce trésor caché. Je ne sais, hésita l'ex-sergent. Je vais te dire ce que racontent nos légendes. Il y a bien longtemps, alors que notre dernier roi, Pongba, s'apprêtait à tenter un dernier effort contre les Annamites avec les survivants de notre peuple, il fit enfouir ses richesses dans une pagode et cacha lui-même le fameux rubis dans la tête d'une colossale statue de Bouddha. Quelques jours plus tard, il était tué dans un assaut. Voilà ce que disent nos légendes. Et cette pagode, en connaît-on l'emplacement ? Ma possède des tablettes gravées qui l'indiqueraient, paraît-il. Un vrai roman, murmura Jean-le-Duc, songeur. Ce serait bien amusant. L'œil de Bouddha. Retrouver l'œil de Bouddha. Quelle aventure! Et posant sa main sur l'épaule de Sang, il me vient un furieux désir de causer avec la princesse Ma. Quand me conduis-tu chez elle? Quand tu voudras. Demain. Depuis plus de 2 heures, Jean-le-Duc s'entretient avec la jolie Ma, si attrayante dans le sarong de soie mauve drapé autour de son buste. Elle a redit, mais avec une abondance de détails et de précisions, les légendes que Sang conta dire au peintre, qui laisse éclater son enthousiasme. Il croit à l'existence du trésor, se déclare prêt à partir à sa recherche, exprime son ardente conviction qu'il le retrouvera. Mais d'un hochement de tête, la jeune fille manifeste son incrédulité. Si l'entreprise était facile, ma famille aurait récupéré ses richesses depuis plusieurs générations. Mon grand-père, qui fut le dernier à tenter l'aventure, il y aura bientôt 50 ans, n'est jamais revenu de la forêt maudite. Elle l'a gardé avec ses 10 compagnons. Mais les temps ont changé, proteste le duc. Les Moïse qui errent dans la jungle ne sont plus aussi féroces. Et combien d'autres différences entre l'expédition de votre aïeul et celle que je projette? Une bande de 10 hommes armés peut inquiéter les sauvages, tandis que Sang, Chong et moi, nous serons simplement un trio de colporteurs, prêts à échanger de la pacotille contre de l'ivoire et autres produits de la forêt. Les Moïse sont sournois et cruels, peut-être, mais n'oubliez pas, princesse, que je suis un Français de France et que ma couleur en imposera à ces sauvages. En somme, d'après vos données, il s'agit d'une marche d'une quinzaine de jours avant d'atteindre cette montagne couverte de forêt où se cache la pagode rubis. 2 semaines au moins, oui. Me confierez-vous la tablette en bois de teck où se trouve indiqué l'emplacement de la pagode? Préférez-vous que je copie le plan? Vous hésitez à me répondre. Je comprends. Vous vous méfiez de moi. De ses grands yeux noirs, elle soutint le regard du peintre et dit d'une voix assurée. Nous autres, qui sommes d'une race si longtemps opprimée, nous avons appris dans le sang et les humiliations à avoir des ennemis partout. Je vous parle avec trop de franchise, monsieur?
Non, cela vaut mieux.
Alors, monsieur, laissez-moi vous dire que je ne vois pas assez clairement les raisons qui vous portent à risquer votre vie pour trouver un trésor qui m'appartient de droit. » Et Jean-le-Duc s'incline en souriant.
« Parmi ces multiples raisons, je vais choisir d'abord celle qui m'apparaît la plus anodine,
l'attrait des aventures. Et vous me faites prévoir que je n'en manquerai pas, certes.
Ma deuxième raison, j'en ai bien peur, va plisser votre joli front d'un froncement courroucé.
C'est qu'il est toujours agréable pour un homme de mon âge de se dévouer aux intérêts d'une jeune et belle personne.
« Galanterie française ?»
s'amuse Maha.
« Ma troisième, continue le duc, c'est la promesse que vous avez faite, m'a dit Sang, que vous serez l'épouse de celui qui vous rapportera l'œil de Bouddha.
Mais monsieur, si j'ai tenu ce propos,
tout doux, gentille princesse, attendez de connaître ma quatrième raison. Sang vous aime, et Sang m'a sauvé un jour la vie, comprenez-vous ?
Vraiment ?
Mais c'est très simple. Si j'aide Sang à retrouver le rubis, je m'acquitte de ma dette de reconnaissance et j'acquire le droit d'être invité à vos noces.
Que pensez-vous de ma quatrième raison, petite princesse ?
Emma se détourne, souriant dans sa confusion.
De Kompong Thom à Pak Nun, poste situé au confluent du Mekong et du Semun, région proche du massif montagneux où se cache la vieille pagode, la distance n'est que de 300 km à vol d'oiseau. Mais de multiples obstacles naturels allongent formidablement l'itinéraire. Le duc et ses deux compagnons sont descendus en pirogue à Phnom Penh par le fleuve du lac. Ils se sont attardés dans la belle capitale cambodgienne pour acheter chez les marchands chinois la pacotille qui, d'après Sang et Chong, plaira le plus au sauvage Moïse, avant de prendre passage sur un petit vapeur des messageries fluviales qui leur a fait remonter le majestueux Mekong jusqu'aux abords des rapides de Khon où le fleuve cesse d'être navigable. Le véritable voyage d'aventure a commencé à partir de ce point. Réquisitionnant des porteurs de village en village, ils marchent à petite journée depuis une semaine, heureux lorsqu'ils ont pu faire une quinzaine de kilomètres entre le lever et le coucher du soleil, dans le labyrinthe de sentes abruptes accrochées au flanc des montagnes couvertes d'une jungle épaisse. Les hameaux, puis les paillotes isolées se raréfient. Le recrutement de porteurs est désormais une impossibilité. L'avancée vers le nord se fait de plus en plus pénible. Et voici qu'une rivière torrentueuse, trop profonde pour être franchie à gué, leur barre la route. Sang accepte d'aller à la recherche d'une pirogue, et les heures s'écoulent en une fiévreuse attente pour Jean-le-Duc et pour Chang. Mais de joyeux appels annoncent son retour, et il apparaît à un détour de la rivière, manœuvrant habilement la barque qui file dans le courant. Et soudain, c'est le drame. Prêt à virer pour piquer vers la rive, l'esquif heurte une roche invisible qui l'éventre. Cramponné à l'épave, Sang est emporté par les tourbillons. Peinement, il appelle à l'aide, supplie qu'on lui lance une corde. Il est déjà hors de portée avant que le duc et Chong aient eu le temps d'en préparer une pour tenter le sauvetage. Et le dernier geste du cousin de Maa, que le courant furibond entraîne vers les mortels rapides, est un geste de malédiction que le Français interprète avec un profond chagrin. Le malheureux, s'imagine-t-il que je lui ai tendu un piège pour m'emparer du rubis sans son aide ? Sang est-il mort dans les rapides ?
Le duc et Chong en ont maintenant la triste conviction après 2 journées de recherche.
Des sauvages les aident à traverser le torrent, et la marche reprend, guidée dans l'épaisseur de la jungle autant par la boussole que par les crêtes qui longent la rive droite du Mekong. Des Moïse leur cherchent querelle et des bêtes fauves les attaquent. L'astuce de Chong triomphe des premiers, et les balles de Jean-le-Duc ont raison des tigres et des panthères. Enfin, ils touchent presque au but. 33 jours après leur départ de Kompong Thom, ils atteignent le village de Pak Nun. Si les données de la princesse Maa sont exactes,
la pagode ne devrait plus être qu'à 8 ou 10 heures de marche. Et le duc, changeant de peau, se présente au fonctionnaire annamite comme un archéologue en mission. Il vient étudier les chefs-d'œuvre de l'architecture cham, abandonnée à la jungle depuis des siècles. 2 journées de repos et les recherches commencent. Il y a des moments où le peintre serait prêt à renoncer à l'entreprise, car le plan gravé sur la planchette indique un ravin qu'il a déjà parcouru dans tous les sens et sans apercevoir la moindre bâtisse. Et c'est Chong qui éclaircit un matin le mystère en cherchant du bois mort pour le feu du bivouac. À 20 pas de l'endroit où le duc est passé 10 fois au moins, voici la pagode que dissimulait un épais linceul de jungle. À voir les douzaines de cobras qui rampent hors des ruines dès que les 2 compagnons écartent les buissons qui obstruent l'une des portes, on croirait vraiment que le vénérable temple est le refuge de tous les reptiles de la forêt. Mais un cri joyeux éveille les échos endormis depuis 8 ou 10 siècles peut-être. Le Bouddha, c'est lui. Et le duc désigne la gigantesque statue enveloppée de pénombre qui se dresse au fond du sanctuaire. Haute de 8 mètres sur son piédestal de granit, elle est taillée dans du grès rouge. 3 énormes blocs superposés. Et la face au trait placide enquin dans les grands yeux qui semble laisser tomber des sourires sur de pieuses foules de pèlerins. Mais, tandis que le Français contemple en artiste cette colossale relique d'une civilisation disparue, Chong secoue sa rêverie d'une remarque opportune. « Maître, nous allons donc savoir enfin ce qu'il a dans l'œil, le seigneur Bouddha. » Les préparatifs ayant pris 2 journées, employés surtout à déblayer autour du piédestal, le sol couvert de matériaux tombés de la toiture, et à construire une échelle avec les bambous rapportés de la forêt. Perché sur l'avant-dernier échelon, le duc n'atteignait la tête qu'en exécutant des torsions de reins qui risquaient de compromettre son équilibre, et pour travailler plus à son aise, il venait d'ordonner à Chong de couper dans le voisinage d'autres bambous pour allonger l'échelle. Soudain, la manite apparut, essoufflée, et s'approchant de la statue, dit à mi-voix « Maître, des hommes, une bande, descendez vite !»« Des hommes, quelques sauvages ?»« Non, maître, des anamites, 20aine, descendez vite !»« Qui se doutait que vous cherchez un trésor »« Es-tu sûr qu'ils viennent ici ?»« Maître, les quelques mots que j'ai surpris. » »« Ce sont des membres du dragon vert, et j'ai compris qu'ils se réunissent dans cette pagode une fois l'an. » »« Avec ton histoire du dragon vert ?» s'esclaffa Jean-le-Duc, sceptique, tout en descendant les échelons. Et Chong dut lui rappeler brièvement que les anamites, coutume empruntée aux Chinois, leurs voisins, sont presque tous affiliés à des confréries secrètes, dont les membres se lient les uns aux autres par de terribles serments. Il n'avait pas achevé ses explications que la bande apparaissait aux abords de la pagode. Un homme, probablement le chef, pénétra d'un pas rapide, aperçut le Français, esquissa un geste de surprise, et se tournant vers Chong, hacha des mots. « Que dit-il ? » demanda le duc. « Que vous êtes venu ici pour surprendre les secrets du dragon vert, maître. Fais-leur donc comprendre que je ne suis qu'un inoffensif archéologue. » Tandis que le brave serviteur s'efforçait d'exécuter l'ordre, les autres affiliés se groupaient derrière leur chef en des attitudes menaçantes et prenaient bientôt part à la discussion. La palabre durait depuis 1/2 heure, quand le duc remarqua que le ton des anamites perdait de sa violence. S'approchant de Chong, il demanda « Alors, la paix est faite ?»« Ne bronchez pas, maître, souriez, pour qu'ils ne devinent pas ce que je vais vous dire. Ils veulent vous assassiner. Diable ! Et j'ai promis de les y aider. Parfait. Maître, vous n'avez pas le sourire qu'il faudrait. Il n'y a vraiment pas de quoi se tordre. » s'esclaffa Jean-le-Duc en un effort. Le plan de Chong faisait grand honneur à son intelligence astucieuse. Feignant d'entrer à fond dans les vues de ses compatriotes, il leur proposait une ingénieuse façon de tuer son maître sans s'exposer aux foudres de la justice, le meurtre d'un Français, même perpétré dans cet endroit désert, ne pouvant passer inaperçu. Sous prétexte de l'aider dans ses travaux archéologiques, il construirait un échafaudage de bambou, du haut duquel il pourrait prendre à son aise des moulages de l'énorme tête de la statue. Puis, choisissant leur moment, il provoquerait l'écroulement de l'échafaudage, et si le blanc ne se tuait pas dans sa chute, il l'achèverait. Mais Chong avait omis de leur révéler un point important de son programme. Il choisirait lui aussi son heure pour verser un narcotique dans l'eau-de-vie de riz dont il les régalait depuis 2 jours. Et les choses se sont déroulées ponctuellement comme en avait décidé Chong. Depuis 2 ou 3 heures, les anamites sont tombés les uns après les autres dans un sommeil quasi léthargique qui ne se dissipera que demain. Sur la plateforme de l'échafaudage qui fait le tour de la statue, Jean-le-Duc peut achever à loisir l'inspection méthodique de la tête. Déjà, dans une cavité placée sur le sommet du crâne et bouchée au ciment, il a découvert une trentaine de pierres précieuses. Puis il revient aux yeux, en explorant sans résultat, s'attaque au second, triomphe non sans effort de la dureté de la composition qui le bouche, tire enfin de sa cachette multiséculaire le fameux rubis. D'en bas, Chong, qui a suivi fiévreusement ses opérations, à peine à contenir sa joie. Il presse son maître de redescendre, lui arrache ses vêtements sans perdre son temps à fournir des explications, façonne un mannequin et le hisse sur la plateforme où il l'installe. Et le duc, qui comprend enfin, est pris de fou rire. Demain, à leur réveil, les conjurés s'empresseront d'abattre l'échafaudage. Il les voit déjà, lardant de coups de poignard le mannequin, avant de découvrir qu'ils ont été roulés comme des enfants. Jean-le-Duc et Chong ne s'étaient pas tardés dans la pagode. La prudence leur conseillait de prendre une autre route pour retourner au Cambodge, et ils filaient droit vers l'est, dans la direction du port de Touran, escale des paquebots entre Haïphong et Saigon. Il leur faut traverser une région montagneuse, couverte de jungle. Parfois, le soir, près du feu de bivouac allumé pour éloigner tigres et panthères, Jean tire de sa ceinture le beau rubis, gros comme une noisette, qui étincelle sous les reflets de la flamme. Et des visions s'enchaînent alors dans sa pensée. Sa jeunesse besogneuse, son essor artistique arrêté par la pauvreté, la jeune fille aimée que les parents refusent de donner au peintre sans gloire ni fortune, les changements que pourraient apporter dans son existence les millions de francs que vaut ce caillou. Et ces visions reviennent maintenant tous les soirs en prenant chaque fois plus de netteté. Et voici que s'y glisse une réflexion à laquelle sa conscience s'habitue peu à peu. Ainsi, il s'est lancé dans cette aventure pour faire le bonheur d'un Asiatique, d'un jaune, d'un homme de race inférieure, tandis que cette pierre pourrait assurer son propre bonheur. Il devrait hésiter d'autant moins à se l'approprier que Sang a dû périr dans les rapides. Mais Chong s'est aperçu que des hommes les suivent dans la jungle. Les conjurés ont découvert, dès leur réveil, qu'ils se sont enfuis en emportant un trésor sacré et ils ont envoyé le signalement des deux fugitifs à tous les membres du Dragon Vert et part en Indochine. Le duc et Chong tentent de déjouer les embûches qui se multiplient autour d'eux. Ils se déguisent en bonzes mendiants, prennent des chemins détournés et leur sonnent, alors qu'ils ne sont plus qu'à une journée de Touran, où le peintre acquiert la conviction qu'il va être attaqué et fouillé. Et il veut à toute force sauver ce rubis auquel s'attachent désormais ses rêves de bonheur. Plutôt que de le perdre et de se condamner ainsi pour toujours à la médiocrité, il choisit soudain un moyen héroïque. Il se fait une profonde entaille dans la cuisse et enfonce le rubis, recoud la plaie. Boitant, souffrant, geignant, il s'était remis en route. Mais l'atroce douleur l'obligeait bientôt à se réfugier avec Chong dans les fameuses montagnes de marbre où vivent des ermites bouddhistes, au fond de grottes que décorent d'admirables sculptures. En quelques jours, grâce aux soins de ces moines et de leur connaissance des simples, la blessure se cicatrisait. Et les visions recommencèrent, maintenant que le duc était certain de pouvoir atteindre bientôt Touran et de s'y embarquer pour la France avec son trésor. La fortune, si chèrement acquise, lui permet de se donner en entier à son art. Il est reçu au salon, il épouse l'aimé. Oh, ce rubis qu'il s'enroulait sous sa peau lui aura acheté tout ce bonheur. Ce ne fut qu'à Saigon, en débarquant du paquebot, que Chong apprit le changement de programme. Fidèle à sa promesse, Jean-le-Duc avait décidé de se rendre à Kompong Tom et de restituer à la princesse Maa le trésor de ses ancêtres. Une heureuse surprise l'attendait dans la petite ville cambodgienne. Échappé à la fureur des rapides, Sang était de retour depuis 2 mois. Et le voici qui accourt à l'auberge en apprenant le retour du Français, et qui le couvre d'injures en l'accusant de trahison. Il a voulu être seul à conquérir l'œil de Bouddha pour mériter la main de la princesse. Et Jean lui répond d'un haussement d'épaule qu'il prima à devenir. Il ne se disculpera que devant elle. Il a rouvert sa blessure. D'un sourire que la douleur fait pâlir, il accueille la jolie princesse en lui remettant le rubis au nom de Sang. S'il a droit à une récompense, elle lui accorde le privilège de la fiancer séance tenante avec celui qui lui sauva jadis la vie. Devant l'écroulement de ses rêves de bonheur, il restait au moins au jeune Français la satisfaction du devoir accompli, et sa philosophie optimiste reprenait aussitôt le dessus. « Bon, on va se remettre à peindre des enseignes et des plafonds. » Il m'est particulièrement agréable d'écrire les dernières lignes d'un récit authentique où je n'ai modifié que les noms. un an après les faits que je viens d'exposer, alors que Jean le Duc brossait une toile dans la rue principale d'une ville de Cochinchine, un touriste s'arrêtait près de lui avant de l'interroger, de se présenter. Riche collectionneur, il voulait savoir si ses toiles étaient à vendre. Et c'est grâce à ce protecteur que Jean le Duc, rentré en France, a vu grandir très rapidement son renom. Il est, je crois, considéré comme le premier de nos peintres exotiques, et marié avec la jeune fille de son choix, il a vu se réaliser tous ses rêves, sans rien devoir à l'œil de Bouddha. Ainsi s'achève Le rubis dans le sang par Victor Forbin.